Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le 9e épisode du podcast Le Safety, le premier épisode depuis la reprise de la NFL. Avec moi, comme d'habitude, toujours, c'est Alan. Comment ça va, Alan? Heureux de la reprise?
Ouais, franchement, salut Ben, salut tout le monde. Ouais, franchement, ça fait plaisir de retrouver les matchs, retrouver des choses à analyser, des takes et tout ça. Non, franchement, c'est le top.
Et avant de commencer, avant de donner un peu le menu de ce premier épisode depuis la reprise, quelle impression? Parce qu'on savait, comme dans tous les sports, le foot, le basket, etc., il y a la question un peu de l'expérience spectateur sans spectateur, justement, téléspectateur sans spectateur plutôt. Je trouve honnêtement que pour le football américain, c'est un des sports où ça passe le mieux.
Ça passe, ouais. Ça passe. Après, t'as, c'est peut-être le sport où l'équipe qui joue à domicile connaît plus de désavantages du fait du manque de spectateurs par rapport à d'autres sports. Donc tu pourrais dire, ah voilà, c'est une limite, mais franchement, ouais, je suis d'accord. De toute façon, les Américains, je trouve franchement, la bulle NBA est là et c'est vraiment très bien fait.
Ouais, globalement, tout ce qui a été mis, surtout qu'on était très inquiets, peut-être un peu alarmiste même par rapport à ça. Donc bravo à eux, ça a été mené pour l'instant de main de maître, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là, donc bravo. Là où il y a des problèmes, c'est du côté de Philadelphie. En ce moment, on va discuter dans un premier temps, dans la première partie de cet épisode, des Eagles qui sont à 0-2, après une défaite cette semaine contre les Rams de Sean McVay, et surtout, je pense que là, c'est le plus important, une défaite en première semaine contre les Redskins dans un match qu'ils ont largement mené. Donc on va revenir sur cette équipe des Eagles qui t'avait donné des maux de tête il y a quelques années, Alan, mais qui depuis patine un peu. Alan, justement, on va parler en deuxième partie de tes Patriots, les Patriots qui jouaient face aux Seahawks. C'est notre match c'est pas le match de la semaine, on peut dire, parce qu'en fait, c'est notre podcast, c'est tous les deux semaines. Notre bi-hebdomadaire, notre match bimensuel, on va revenir sur cette victoire des Seahawks face aux Patriots. Et puis dans la dernière partie, alors on vous avait demandé des questions, honnêtement on s'attendait à avoir 2-3 questions, avalanche de questions, donc Alan, on va revenir dans la dernière partie sur vos questions. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter, même si on poste un tweet toutes les 3 semaines à peu près, on vous invite à nous suivre sur Twitter et surtout à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast, et si c'est Apple Podcast, 5 petites étoiles, ça aide le podcast, celui-ci qui est encore tout jeune à se développer, ça nous aide vraiment, donc merci. Et puis nous, on marque une toute légère pause et puis direction la Pennsylvanie pour parler des Eagles.
We had a conversation on this show that Doug Peterson was the best coach, that Philly had the best roster in the NFC East. You said that. Now, Carson Wentz playing bad, it's Doug Peterson's fault.
No.
The play calling fault. No, it's Carson Wentz's fault. He's not playing well. He's playing bad. He's hurting his team. But now all of a sudden, Doug Peterson not calling the right plays, and Doug Peterson ain't the same coach he been. Is that what you telling me?
No.
That this is Doug Peterson's fault that Carson went.
Les Eagles 0-2, Alan, qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, j'ai pas préparé d'intro parce que c'est assez incroyable à quel point cette équipe, on a l'impression, part un peu en décrépitude depuis son Super Bowl. J'avais limite envie de faire un parallèle avec les Falcons, mais qu'est-ce qui se passe à Philadelphia, là? Clairement, il y a la défaite contre les Rams, elle est limite excusable, même si on reviendra sur le match, il y a quelques éléments qui sont tellement symptomatiques de ce qui va pas, mais celle contre les Redskins, elle est inadmissible.
Ouais, franchement, c'est difficile à expliquer, parce que, bon, ils gagnent le Super Bowl en 2017, tout le monde salue les moves du GM Harry Roseman, Doug Pederson, qui était un jeune coach, qui venait de l'Arbe Andy Reid, donc ils avaient un petit peu tout ce qui plaisait, en fait, aux suiveurs NFL à cette époque-là. Ils avaient le jeune QB qu'ils avaient drafté. Bon, il s'était blessé, mais ils avaient investi sur un backup, Nick Foles, qui leur permet d'aller au bout, de gagner le Super Bowl. L'année d'après, ils vont en playoff alors qu'ils ont plein de blessés. Donc tout le monde salue. En fait, c'est ça. Je pense, voilà, je vais commencer par ça. Je pense que leurs deux dernières saisons sont un trompe-l'œil, parce que vu qu'ils arrivent à aller en playoff avec un effectif décimé, on a peut-être surévalué la qualité du roster à 100%. Même s'il y a pas mal de blessés, je reviendrai. Je pense que voilà, ils étaient dans une division pas compliquée, la NFC Est. Ils sortent de cette division pour aller en playoff deux fois. Ils vont même gagner un match à Chicago. On s'en rappelle sur le coup de pied raté du kicker des Bears. Et donc peut-être qu'il n'y a pas eu cette énorme remise en question du projet, du roster et tout ça, parce que c'était une équipe de playoff en fait. Peut-être que c'est une des premières explications.
Je suis assez d'accord. L'année dernière, par exemple, 9-7, mais tu l'as dit, la NFCS, sur tes 9 victoires, il y en a 4 contre les Giants et les Redskins, qui sont quand même deux équipes qui sélectionnent au top 5, dans le top 5 de la draft l'année-là.
Et
Une
dernièrement
victoire
aussi,
contre.
ça fait longtemps qu'ils sont dans le top 5, hein, ces deux-là.
C'est ça en plus, ça fait longtemps. D'ailleurs, on y reviendra. Ça peut limite poser problème pour une éventuelle reconstruction. Parce qu'avec des équipes si mauvaises dans ta division, tu pourrais limite gagner 4 matchs sans le vouloir presque. Ils battent aussi qui l'année dernière? Les Jets, les Bears, ils ont une victoire 7, certes symbolique, contre les Cowboys, mais c'est des Cowboys diminués. Je suis assez d'accord. Je trouve qu'avec cette équipe, ça fait bien longtemps qu'on utilise, on utilise l'excuse des blessures pour un peu tout excuser. Et moi, j'ai vraiment l'impression, plus le temps avance, que 2017, c'est un run magique. Et qu'en réalité, il y a plusieurs éléments qu'on oublie dans ce run. D'abord, un petit peu son côté extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils marchent sur l'eau, tout leur réussit. On oublie le fait que ça se base sur une assise de joueurs assez vieux quand même. Je veux dire, les Chris Long, les Bennett, il y avait Fletcher Cox qui depuis n'est plus le même Fletcher Cox. C'est pas comme
Jenkins.
aussi à l'instar de ce qu'ont pu faire, contrairement à ce qu'ont pu faire les Chiefs par exemple récemment, ou les Seahawks un peu plus dans le passé. C'est pas un titre qui se base sur beaucoup de jeunes joueurs draftés. C'est pas mal d'additions à la free agency, et je trouve que là on en paye les pots cassés, parce que tu vois, de la liste que je t'ai dressée, il reste plus personne.
Il reste Fletcher Cox qui est un des meilleurs joueurs de la NFL, si on prend voilà en termes purs, quoi. Si on...
Bah tu vois, ça, je suis plus
T'es
d'accord
plus
avec ce.
d'accord,
Je
ouais.
trouve que
Pour toi,
j'ai
c'est plus le
regardé.
deuxième, pour toi, c'est plus le deuxième meilleur
Non, je pense pas. C'est ce qu'on avait dit dans un épisode, et moi j'ai regardé les deux premiers matchs des Eagles. Je vois pas Fletcher Cox dominant en fait. Ce qui est extrêmement gênant quand c'est une ligne qui coûte. Ça doit être une des lignes les plus chères de la NFL, celle des Eagles.
C'est ça, c'était moi un de mes premiers points, c'est défensivement, l'investissement qui est fait sur la ligne défensive, bah il paye pas pour l'instant. Parce que t'as payé beaucoup d'argent à Javon Hargrave, des Steelers, t'as récupéré Malik Jackson, t'as Fletcher Cox, t'as drafté Derek Barnett au premier tour, donc il fait l'action la plus importante de l'histoire des Eagles, donc c'est le strip sack sur... il récupère le ballon sur le sack sur Brady en 2017,
Et il fait rien
mais,
depuis.
voilà, mais il a pas le rendement d'un pass rusher drafté au premier tour. Brandon Graham est un pass rusher solide, mais voilà. Et donc ces cinq joueurs-là, franchement, tu regardes les noms, tu regardes les salaires et là où ils sont draftés, tu dis ouais, c'est vraiment le point fort de l'équipe. Et en fait, et ça doit être le point fort parce qu'il y a derrière, ils n'ont pas les linebackers et on reparlera des DB pour vraiment peser et couvrir longtemps. Déjà, personne ne peut couvrir longtemps du monde sans un véritable pass rush. Mais là, ils en ont. C'est vraiment le premier point faible, je trouve, sur les deux premiers matchs que je me suis refait en replay. C'est qu'ils arrivent pas énormément à gagner, à mettre de la pression avec leur ligne défensive, qui est vraiment l'investissement financier et l'investissement en termes d'hommes de choix de draft de cette équipe.
De mémoire, contre les Rams, c'est 2 QB hit et un sack.
Pas de pression, c'est tout simplement quoi. Goff est dans un fauteuil. Hein.
Et en plus, Goff et la ligne des Rams, elle est certes en progrès, mais c'est pas la meilleure ligne de la NFL. Donc, quand tu as autant d'argent investi sur une ligne, tu as en droit d'espérer qu'elle produise mieux. Et je suis assez d'accord avec toi. Dans la question qui nous drive un peu, dans la question qui nous mène un peu, qui est une question de Johan Tessier qui nous avait demandé du coup par rapport aux Eagles sur Twitter. Les Eagles doivent-ils commencer à tout reconstruire? Situation financière très embarrassante. Wentz plus leader de terrain décevant. Roseman médiocre dans ses choix depuis le titre. Playbook de Peterson et système défensif, je pense, de Schwartz sans inspiration. Il y a aussi, bah, si j'ai relu la question de Johan, c'est aussi par rapport au playbook défensif et au plan de jeu global. J'ai l'impression, et je lisais ça sur Football Outsiders, que ce qui a fait les ingrédients de ce rhum magique en 2017, la défense de Schwartz, aussi les jeux offensifs ultra agressifs, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas évolué. Et le problème, c'est que ce qu'ils pouvaient faire, comme par exemple jouer les quatrièmes, ça s'est démocratisé. Tout le monde joue les quatrièmes maintenant. Enfin, je me faisais cette réflexion. Je regardais une partie du Dolphins Jaguars la nuit dernière. On enregistre vendredi. Tout le monde tente les quatrièmes maintenant. Ça n'a rien d'exceptionnel.
Non, non, ça n'a rien d'exceptionnel. Ils ont perdu, peu de gens en parlant pour les Eagles, mais ils ont perdu Frank Reich, qui en 2017 était le coordinateur des jeux sur troisième tentative et quatrième tentative, qui était je crois pas le coordinateur offensif, mais le coach des QB, mais en gros, il avait son mot à dire dans les appels de jeu sur tentatives importantes. On voit ce qu'il fait du côté d'Indianapolis. C'est un solide, très solide play caller. Bon, je pense qu'il manque. Et puis, ils ont quand même des blessés aussi sur la ligne offensive. Là, c'est vrai qu'ils ont trois starters en moins. Enfin, en ce moment. Deux importants, Brooks, Dillard, Seuil Malo qui s'est blessé contre les Rams. Donc ils sont obligés de, même on en parlait beaucoup de ça pendant l'intersaison, obligés de rafistoler avec Jason Peters, qui est une légende, hein, mais qui est un peu en fin de cycle. Ils startent Jamon Brown, qui est un journeyman, comme on dit aux États-Unis, un joueur qui a fait pas mal de clubs. Quand tu changes de club tous les ans, c'est que voilà, t'es peut-être pas non plus si extraordinaire que ça. Donc il y a aussi voilà cette, ils ont pas réussi à se réinventer sur les postes de receveurs, quoi. Ça, c'est peut-être la question.
Je vais te lancer là-dessus, Alan, parce que souvent, par rapport à Wentz ou à une attaque qui est pas vraiment inspirée, on a souvent pointé du doigt ces postes de receveur. C'est vrai que, alors, JJ Arcega-Whiteside, je pense que c'est l'homme le plus détesté de la Pennsylvanie, à l'heure actuelle.
Parce qu'il est pris avant AJ Brown et DK Metcalf aussi.
C'est vrai. C'est vrai que, et le pauvre, j'espère que Jalen Reagor, leur choix de draft cette année, même s'il est blessé en ce moment, va payer, parce que je pense qu'autrement, il va avoir des émeutes du côté de Philadelphie. Est-ce que ça excuse tout? Moi, c'est ça ma question. Est-ce que ça excuse tout? Parce que je parlerai aussi des personnels mis en avant. On dit souvent, voilà, Zach Ertz, Dallas Goedert, c'est un peu les deux seules options qu'il a. Mais est-ce que ça excuse tout du rendement offensif de ces Eagles? Ça, la panne au poste de receveur.
Non, franchement, c'est une bonne question parce que 2017, bon, ils avaient de la continuité, c'est-à-dire qu'ils avaient trois bons receveurs. C'était Alshon Jeffrey, Torrey Smith et Nelson Agholor, mais c'est pas non plus. Ils avaient bien joué. Franchement, ils avaient vraiment été très en réussite pendant ce run-là. Comme tu as dit, de toute façon, ce run, c'était magique. Hein. Il y a Wentz qui se blesse. Quand ils mettent Foles sur la fin de saison, ça marche pas trop. Ils arrivent quand même à avoir le bail. Ils ont 2 semaines et là, t'as l'impression ils ont refait une attaque spéciale pour Foles. Et après, ils marchent sur l'eau pendant un mois. Et c'est ce qui s'est passé. Mais tu vois, Alshon Jeffrey vieillit et même à son prime, j'adore ce joueur. À son prime, c'était pas un mec très rapide, c'était des balles 50-50 et tout ça. Donc ça marchait bien avec Nick Foles qui balance que des cloches en l'air. Mais DeSean Jackson, la vitesse c'est très important en 2020, mais en fait il est blessé quoi. Il est souvent blessé. Jalen Reagor, c'est un rookie, on attend de voir. Sega Whiteside, ils l'ont pris parce qu'ils avaient dit qu'ils aimaient bien son fait que c'était une menace pour la red zone. Pour l'instant ça marche pas trop, puis en plus Wentz en red zone il regarde que Ertz et Goddard, donc non franchement j'étais parti dans l'optique du ouais il y a des blessés sur la ligne, blessés sur les postes à côté, mais tu peux pas dire que c'est que à cause du supporting cast, parce que alors l'année dernière sur la fin de saison oui parce qu'ils vont chercher des mecs sur le practice squad d'autres équipes, ok. Là, bon, tu te dis, sur les 2 premières semaines, ils sont pas au complet, mais ils sont pas non plus. Franchement, leur corps de receveur est pas pire que celui des Patriots ou d'autres équipes.
Hein. Et puis, est-ce que c'est pas aussi aux dirigeants, au GM, hein, le nom d'Harry Roseman a été cité. Si ça fait 3 ans que tu vois que ton effectif est incapable de rester en bonne santé, de faire les ajustements pour peut-être se délester déjà des joueurs qui ont des problèmes de blessures récurrents et aussi de changer les choses en fait. Parce qu'encore une fois, cette ossature, on en a parlé, elle a pas changé. Moi, c'est ça qui me semble un peu incroyable. Et puis, je sais pas quel dossier ouvrir, parce que je t'avoue que je t'ai dit un peu en préambule, avant de commencer à enregistrer. J'avais d'un côté le cas Wentz, qui pour moi était très intéressant. Aussi, leur draft récente. Peut-être que parler de leur draft récente, c'est un peu plus dans la continuité, parce que comment remplacer les joueurs qui partent du cycle Super Bowl quand tu ne réussis rien à la draft? Je regardais depuis la draft 2014. Alors c'est un peu, je remontais quelques années avant leur titre. Depuis 2014, ça nous donne 6 classes de draft. J'exclus 2020 parce que techniquement, il ne faut pas rentrer dans mon calcul. Devine, Alan, ils ont sorti combien de Pro Bowlers? Alors le Pro Bowl, c'est imparfait. c'est pas, c'est imparfait, mais je trouve quand même que la stat est assez incroyable.
Combien de Pro Bowlers? Ça veut quand même dire bon joueur, quoi.
C'est ça. Au bout d'un moment aussi, alors certes, ça a des imperfections, des mecs qui rentrent juste sur leur nom, mais au bout de 6 ans, tu sais quand même, l'échantillon est assez large. En 6 classes de draft, combien de Pro Bowlers?
Bah, donc Wentz, Brandon Brooks,
peut-être. Jamais. Non? C'est tout.
Wentz. Il est juste avant, alors Brandon Brooks. Putain. Donc, c'est juste Wentz, alors.
Wentz depuis 6 ans. Wentz de... Alors, j'ai regardé, bon, supporterisme oblige, j'ai regardé les Ravens, c'est pas un bon exemple, mais sur la même période, ils en sortent 8. Et c'est incroyable. Et du coup, j'ai même été, du coup, aller plus loin et regarder le nombre de titulaires qu'ils arrivent à sortir par année. Alors, c'est un peu difficile comme calcul parce que tu te bases sur quoi? Un mec titulaire une année, etc. Enfin, bref. 2014, il y a qui sort vraiment? Jordan Matthews. 2015, Jordan Hicks, Nelson Agholor. 2016, alors oui, c'est
tout
peut-être...
Tout le monde n'est plus là, personne n'est plus là.
C'est... En plus, 2016, alors il y a Carson Wentz, oui, il y a Janelle Mills qui est un bon titulaire, mais qui est pas loin, qui est pas incroyable. Vaita, je dirais pas son prénom, ouais, qui n'est plus là non plus.
À Détroit, ouais.
Et Isaac Suamelo, tu l'as dit, le lineman. 2017, Derek Barnett, il est titulaire, mais c'est pas un bon pass rusher. Nathan Gary, c'est pas un bon linebacker. Et 2018, ils sortent juste Dallas Goedert. Enfin, c'est... leurs classes de draft sont pas bonnes. Et il y a un moment où c'est plus tenable. C'est plus tenable.
Tu le payes. Tu le payes, c'est clair. Ils ont aussi pas remplacer tout le monde, tu vois, ils avaient des postes de corner, je trouvais qu'ils avaient fait des bonnes choses pendant leur run, ils avaient mis de l'argent sur des gars sur une année, Ronald Darby, Patrick Robinson, c'était ça pouvait jouer de l'homme à homme, c'était pas mal dans le système de Schwartz, franchement c'était pas mal, ils ont pas vraiment pu remplacer ces mecs-là, ils ont essayé de le faire avec la draft, je me rappelle de Rasul Douglas notamment qui avait été drafté deuxième ou troisième tour, bah voilà, il est cuté 2 ans après avoir été drafté. Maintenant, il est titulaire aux Panthers. Donc, ouais, bah tu rates des classes de draft quelques années de suite et tu te mets vraiment dans une situation où soit tu trouves ce qu'on appelle des petits diamants sur le marché des agents libres, des rookies agents libres. Mais ça arrive peu. Et on aime toujours les mettre en avant, mais ça arrive peu. Là où tu crées ton équipe, c'est dans les 2 premiers jours de la draft.
Et tu peux pas t'en sortir si t'as si peu de rendement.
Ouais, exactement.
Tu peux tout simplement pas t'en sortir. Je lisais un article de The Athletic fascinant, quand même, qui m'a amené à me poser des questions. Il date de quelques jours, qui comparait la situation des Rams et des Eagles. Et c'était un dirigeant qui était un exécutif qui était interrogé anonymement qui disait mais moi je préfère largement être dans la situation des Rams que des Eagles. Les Eagles ont de l'argent sur des joueurs qui sont dans le mauvais côté de leurs 25 voire 30 ans. Les Eagles ont des joueurs constamment blessés et on peut dire ce qu'on veut des Rams qui ont été, et on l'a fait aussi, largement critiqués sur leur gestion, mettre 25 sur Aaron Donald qui a fait un mauvais match un mauvais match contre les Eagles, mais mettre de l'argent sur lui, sur Ramsey, qui sont potentiellement les 2 meilleurs joueurs à leur poste, ça me va mieux que mettre de l'argent sur certains des, comme ils ont alloué les Eagles, sur des postes où c'est pas des joueurs qui créent des différences.
Ouais. En fait, c'est un peu décevant. Enfin, moi, je suis assez déçu personnellement parce que j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait. Pendant l'intersaison, franchement, tu traites pour Darius Slay et tu lui donnes une extension. T'avais des problèmes de corner, je trouvais ça bien. Je le trouve pas horrible sur les 2 premières semaines. Il est pas ultra dominant non plus, mais je le trouve pas horrible. Malik Jackson, est-ce que Malik Jackson commence pas à atteindre un point où il est moins bon, tout simplement?
Voilà, peut-être, tout le monde sera inoffensif. Défensif.
Ouais, c'est ça, hein. Malik Jackson est. Mike Jackson, il était à son prime quand les Broncos gagnent le titre, quoi. Et après, il est très moins que les Jaguars. Et
puis ça fait combien d'années, ça?
Ouais, c'est ça, c'est ça. Calais Campbell, par contre, lui, est plus en forme, j'ai l'impression.
Merci.
Vous avez pris le bon des deux du trade.
Puis tu vois, je te coupe, mais je te relance direct. Si tu te rappelles si on se rappelle de ce run, c'était la rotation qui faisait du mal. Il n'y a plus de rotation, vraiment.
Ouais, ils avaient plein de gars, ils avaient Vinny Curry, et pas forcément des mecs avec des noms comme Malik Jackson ou Javon Hargrave, ils avaient payé autant, mais c'était la rotation, c'était 6 gars en fait. Et c'est comme ça en vrai qu'un pass rush ça fonctionne maintenant, parce qu'il y a tellement de snaps où c'est des jeux de passe que t'as besoin d'une vraie vraie rotation. Non, je suis vraiment d'accord avec toi que il y a ça devait être le ça doit être le point fort et c'est ça l'est pas. Et moi après juste dernière petite note, le backfield défensif. Enfin, tu peux pas avoir dans tes quatre corners sur la feuille de match trois gars qui en fait sont des nickelbacks, parce que Avante Maddox, Creveon Leblanc que j'aime beaucoup. J'adore Creveon Leblanc, il est toujours bon, mais c'est un slot. Et Nickel Robbie Coleman, c'est un pur slot. Donc, en fait, tu as Jalen Mills qui était vraiment ton deuxième corner sur l'extérieur. Tu le repasses au poste de safety parce que tu perds Malcolm Jenkins. Donc, déjà, c'est un moins bon safety que Malcolm Jenkins. Et à la place sur les extérieurs, bah, tu as plus Rasul Douglas. C'est un bust hein, selon toi, vu que tu l'as coupé. Donc, tu donnes des snaps à des joueurs qui, je pense, sont beaucoup plus à l'aise dans le slot. Donc, bah, c'est pas possible en fait, c'est pas viable. L'époque où ils avaient des Patrick Robinson, Ronald Darby, je dois en louper un autre, un dernier en 2017 qu'ils avaient sur les extérieurs, ben elle est loin. Et ils payent aussi, excuse-moi de te couper, encore une fois, choix de draft raté, Sidney Jones, et tout ça encore, voilà, c'est. Voilà.
Mais puis faut aussi se rappeler que déjà l'année où ils vont au Super Bowl, alors ils ont su rafistoler un backfield défensif, mais il est pas non plus 4 étoiles. Enfin, l'année du Super
Brady le
Bowl,
déboîte. Au
bah
Super Bowl.
on réécoute les analyses. Exactement, on réécoute les analyses. C'est le point qui a effrayé tout le monde sur ces Eagles, et depuis ils s'en sont pas vraiment remis. Je pense que là, logiquement, dans le fil de la discussion, avant peut-être de parler du reste de leur saison, on est un peu obligé de parler. Du cas Wentz, parce que ça fait beaucoup couler d'encre du côté de Philadelphie. Qu'est-ce qu'on fait de Carson Wentz? Est-ce que dans tout ce qu'on a pu dire, qui quand même on montre que voilà, il y a eu des déficiences du côté du front office, que le coaching staff est plus inspiré, quelle part de responsabilité il a dans tout ça, Carson Wentz?
Bah, je te laisse parler parce que c'est. Je trouvais que tu voulais en parler de Wens, donc
Ok,
je te
ok.
lance sur le. Vas-y,
Tu me
je t'en prie.
relances ma question, tu renvoies la
Exactement.
balle. Bah, je trouve moi que Wentz, ça fait plusieurs années qu'on se base sur le qu'on s'appuie sur le reliquat de sa saison 2017 ou qui avait été bonne. Mais déjà, il y a un truc que je trouve incroyable sur cette saison 2017, c'est qu'on oublie que certes il a ce run incroyable, mais qu'au bout son équipe arrive à gagner sans lui. Ce qui prouve de facto que quand même ce qu'il y avait autour était ultra solide. Alors est-ce que depuis, on l'a dit, il y a des problèmes au niveau des receveurs, etc. Je cautionne tout. Je suis d'accord avec la plupart des choses. Mais quand je regarde le match contre les Rams, c'est pas qu'il est Calvin Johnson ou Darius Edwards B, c'est pas normal qu'il les passe 2 yards au-dessus du mec. 2, 3 yards, certaines passes sont ratées. Et puis, je trouve qu'au niveau des lectures, il se complique trop la vie, Carson Wentz. Je pense à une action où on doit être allé aux 40 ou 50 yards des Rams. Je crois qu'on est peut-être deuxième, troisième quart-temps. Enfin, je me rappelle plus. C'est une action assez simple. C'est un blitz des Rams et il voit le linebacker lui arriver pleine face. Il voit le linebacker arriver. Il a deux options. Il a Miles Sanders qui part du backfield pour un petit check down, ou il a Dallas Goedert. Il doit lancer la balle 1 ou 2 secondes avant qu'il la lance. Il la lance, certes, c'est complété, mais il se fait cisailler par le linebacker adverse. Et trop souvent, on voit ses actions et il n'arrive pas à se simplifier le jeu. Est-ce que c'est la faute du coaching staff? Je le pense un peu, mais il veut trop, en fait, mettre l'équipe sur son dos. Les lectures faciles, il les fait pas. Moi, je trouve ça incroyable. Et je te dis, des lancers ratés, est-ce que tous les QB sont en capacité de faire un match parfait? Non. Tout le monde rate des passes, même les Mahomes rate des passes. Mais là, c'est des ratés 2 yards. Et c'est des lectures simples qu'il n'arrive pas à faire. Enfin, je suis pas expert. Enfin, on n'est pas des experts, tu vois, on n'a pas le bagage. Donc, quand ça me marque sur un match, c'est vraiment qu'il y a un problème.
Ouais, on n'est pas expert, on n'a pas les playbooks et tout ça, donc quand c'est criant, tu vois, des fois on dit est-ce que c'est la faute du receveur ou est-ce que c'est la faute du QB, des fois on sait pas, mais là, ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il est pas un peu Andrew Luckien sur certains trucs?
Ouais, mais il a pas, tu vois, je trouve qu'il a pas les hauts de Andrew Luck, il a pas les pics d'un Andrew Luck. Je voyais,
D'accord, ouais.
enfin, alors j'ai tenu 25 minutes avant de les citer, tes amis de PFF ont sorti la stat, comme quoi il avait 40% de passes on target, c'est-à-dire ciblé, si tu veux, c'est le pire pour un starter NFL. Ouais. Alors encore une fois, j'entends les receveurs autour sont pas très bons, mais ça, au bout d'un moment, savoir mettre la balle au bon endroit, c'est aussi il faut l'attendre. Enfin, je trouve, je sais pas. Enfin, beaucoup de ils tentent des jeux trop durs. Il y a un moment, je sais plus, il fait la passe à qui au milieu de cinq défenseurs, c'est n'importe quoi. Enfin.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Franchement, j'ai bien revu les deux matchs. Et, Peterson n'installe pas de jeu au sol. Déjà, bon, ça.
Alors que Miles Sanders est pas mauvais, je trouve.
Miles Sanders, c'est un bon running back. Ils ont investi. Ils ont investi un deuxième tour dessus. Ils ont un Boston Scott qui est un peu ce que tout le monde veut chez un running back de troisième tentative, hein. Genre, de Chris Thompson, James White et tout. Mais ensuite, le problème, c'est que moi, je trouve qu'il cherche trop ses tight ends, en fait. Enfin, il est aimanté par Zach Ertz et Goddard. Goddard, très bon, très, très bon joueur, je trouve. Je trouve qu'il est meilleur que Zach Ertz, même maintenant, limite. Zach Ertz, c'est un receveur de possession. C'est 10 yards et c'est un très bon joueur. Goddard, il peut faire des différences et c'est un bon bloqueur. Mais ouais, il est un peu aimanté par eux. Quitte à oublier certains autres de ses coéquipiers, peut-être qu'il a moins confiance. Et qui, je trouve que pas mal de fois, comme tu l'as dit, il double check, il regarde pas, il force. Je pense qu'il est-ce qu'il fait trop confiance à son bras.
C'est, aussi ouais, parce que aussi pense, hein. Des fois, quand tu le regardes lancer, il fait trop confiance à ses qualités athlétiques. Il est déjà il se déséquilibre forcément. Après, c'est quand même, il est capable. Après, hein, attention, on relativise. Il y a dans chaque match, il y a 4-5 actions où il fait des trucs. Il y en a 5 qui sont capables de faire ça, je pense.
Ah, mais
il
c'est balance un top 10 des fois. QB, il y a pas, voilà. Je pense qu'on peut tous le dire, mais
ah, tu vois, ça, par contre, pour moi, ça se défend, tu vois. Ça, okay. Je trouve que sa place dans la hiérarchie est pas si évidente que ça. Et selon moi, là, on le voit, c'est que là, on le met en position. Alors, c'est trop extrême, mais de porter une attaque, et il sait pas le faire. Encore une fois, tu l'as dit. Trop de tight end. C'est l'équipe qui joue personnel 12 le plus souvent. Donc, deux tight end, un running back, c'est plus souvent.
Enfin, ouais, bah, ça m'étonne pas.
Et surtout, c'est l'équipe qui joue le moins personnel 11. C'est-à-dire, un running back, un tight end le moins souvent. Et alors là où c'est incroyable, j'ai vu cette stat, ils produisent 2,7 yards par action quand ils sont en personnel 11. C'est 2 yards de moins que la 31e équipe en NFL. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont nullissimes.
Avec 3 receveurs sur le terrain.
Avec 3 receveurs sur le terrain. Alors ça, je pense que les torts sont partagés. C'est parce que les receveurs sont pas bons, on est ok. Mais c'est aussi que des fois, tu regardes les matchs, il y a des lectures qui sont pas faites.
Ouais, je suis d'accord. Un mec comme Marquis Goodwin, je pense qu'il avait été aussi recruté pour apporter de la profondeur. Bah, il joue pas à cause du Covid.
Assez grassement en plus, Marquis Goodwin, hein, qui...
Ouais, ouais. Ils ont échangé un tour de draft pour lui, un tour de draft de deuxième tour, je crois, de l'année prochaine, de mémoire, ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, il n'y a pas ce développement de Arcega Whiteside. Si tu as investi un deuxième tour de draft sur un receveur, tu as beaucoup d'équipes qui ont trouvé des perles sur des seconds tours de draft ou troisième sur des receveurs. Bah, eux, pour l'instant, ils se sont un petit peu trompés. Régor, qui s'est blessé en plus, là, Jalen Régor. C'est pas ça, ils ont Greg Ward qui avait fait une bonne fin de saison, c'était la petite belle histoire, mais voilà, puis t'as Jeffrey Jackson qui sont sur la fin de carrière, tout simplement. Il n'y a pas ce renouvellement.
Et du coup, pour avancer, peut-être ce que tu as...
Ils ont drafté déjà... Hurts à la place de drafter peut-être autre chose qui aurait peut-être pu les aider.
C'est vrai. Et pour avancer, parce que on est encore une fois, notre petit timing d'une heure, il va complètement exploser comme d'habitude, je te donne rapidement la suite de... Du calendrier, les 3 prochains matchs des Eagles, c'est Bengals, certes, 4 prochains matchs. Bengals, ok, à Philadelphie. Mais ensuite, ils se déplacent à San Francisco, ils vont à Pittsburgh et ils reçoivent les Ravens. Concrètement, est-ce qu'ils vont en playoff cette année?
Moi, je les avais pas en playoff, les Eagles, parce que... Ils avaient un calendrier plus dur que avec du fait qu'ils avaient été gagnés à division, ils ont qui jouaient les champions de division, qui vont jouer les Packers, ils vont jouer les Saints, ils vont jouer les 49ers comme tu l'as dit, ils vont jouer ils échangent avec votre division à vous. Donc ils vont jouer les Steelers, ils vont jouer les Ravens comme tu le dis. Donc non, je pense
les, même les Browns, tu vois, cette année les Browns c'est pas donné pour les Eagles.
Je pense qu'ils vont pas en playoff. Et j'aurais pu me dire, ah, tu me disais, tu vois, là, au début de saison, j'avais dit que les Rams iraient en playoff plutôt qu'eux, et j'aurais pu bien comprendre qu'on dise non, l'inverse. Mais là, je suis pas rassuré sur les deux premières semaines. Ils ont perdu à Washington. Faut quand même qu'on le
Ah, mais
dise.
ce match, on n'est pas vraiment revenu dessus, mais
Non.
ce match,
Ouais.
c'est un scandale.
Ils sont perdus à Washington. Washington, ils ont un front fort, c'est tout. Dans l'équipe.
C'est assez. Oui, je vois pas. Enfin, je regarde leur calendrier. Alors, ils vont peut-être gagner des matchs contre ceux qui restent des Giants, mais il n'y a pas de match facile, en fait. Les Giants, c'est les seuls matchs faciles qu'ils ont. Je trouve que les Bengals sont loin d'être scandaleux, par exemple.
Ah ouais, franchement, oui, je suis d'accord.
Enfin, c'est terrible à dire, mais les Eagles cette année finissent à 5 victoires, je suis pas surpris.
Et ça
Ça...
serait une catastrophe industrielle un peu pour le GM, le coach et tout ça.
Ah ben totalement. Est-ce que on va finir là-dessus? Est-ce que des têtes sautent du coup s'il y a ça comme bilan? Moi, ce que je disais encore une fois sur un article de The Athletic, je crois bien, c'est tout simplement une équipe vieille, surpayée et pas vraiment talentueuse.
Bah, c'est tout au poste clé, hein. Donc coordinateur et coach principal et GM, c'est l'équipe qui a gagné le Super Bowl, quoi. Donc, je sais pas. Peut-être, hein, peut-être qu'il faudra changer, il faudra peut-être changer quelque chose, mais ils ont quand même toujours cette carte de visite d'avoir gagné le Super Bowl, quoi.
C'est ça, qui sauve beaucoup, surtout dans le cas de Philadelphie, qui a peut-être sauvé cette équipe des Eagles. Mais oui, compliqué Philadelphie, compliqué honnêtement. On nous parlait du bust, des busts. Il y a une question à laquelle on va répondre sur les busts de cette saison. Sur le début, Philadelphie c'est assez solide. Bon, il y a aussi des équipes qui perdent en mettant 39 points sans perdre un ballon, mais
Sans punter, ouais.
sans punter, hein, voilà, en oubliant des règles de base, mais sur le début de saison, c'est assez solide niveau catastrophe, ce qui se passe du côté de Philadelphie. Après, on souhaite de mauvais, de manque de réussite à personne, mais là, c'est extrêmement compliqué la suite de la saison quand tu regardes le calendrier. Pas la bonne année pour croiser c'est rarement la bonne année, mais surtout cette année pour croiser la FC Nord. Très bien, Alan. Et bah, du coup, on va marquer une toute petite pause, puis on se retrouve pour le match, du coup, bimensuel, notre match bimensuel. C'était les Patriots, qui se déplaçaient du côté de Seattle.
This is it. The fullback's gonna shift to be lead blocker. Here we go. Cam is gonna take it himself and he doesn't get in. And the Seahawks are gonna win the game. Line up with a power formation and you got LJ Collier and Leno Hill are the two guys who are there.
Les Patriots se sont donc inclinés de 5 points face aux Seahawks dans un match extrêmement plaisant, un des matchs les plus plaisants, je pense, de ce début de saison, dans un CenturyLink Field vide, qui quand même, on en parlait sur le début de l'émission, là ça change des choses quand même.
Là, oui.
Surtout sur un Sunday Night Football en plus, ça change quand même pas mal
Et
d'éléments.
surtout, je suis extrêmement peiné, il n'y a plus les petites présentations des joueurs, Ben, sur le Sunday Night Football.
Ah, j'ai vu ça. J'ai pensé à toi.
Je te l'ai pas dit en live, je le dis aux auditeurs, c'est mon moment préféré de la
C'est,
semaine.
alors, je l'ai déjà vu dire les joueurs un par un avec leur fax, et c'est clairement, il attend en ce moment, et j'avoue, ça a sauté. Petit pincement au cœur aussi de mon côté, mais c'est vrai que c'est
C'est
un
la
petit
fin du nerf.
piment.
Et puis des fois, il y avait des surnoms sympas.
Ou des universités qui n'existaient pas. Et
Oui,
ça.
exactement.
Et c'est parti. Alors, comme Alan vous l'avait dit sur Twitter, avec le compte du safety, l'objectif c'était un peu d'aller un peu plus loin, de creuser ce match et de dire ce qu'on avait vu. Alors, Alan, je vais peut-être commencer. Tu m'avais dit, ah, faut que tu parles un peu des Patriots, faut pas que j'en parle. C'est vrai qu'on connaît la mauvaise foi bostonienne historique. Moi, si je dois parler du côté des Patriots, alors inversement d'épaule par rapport à la saison dernière, j'ai trouvé l'attaque assez inspirée. J'ai trouvé Cam Newton très fort sur une chose, l'anticipation niveau lancé. J'étais pas mal impressionné par ça. La défense. Alors, on pourra me dire que sur les multiple touchdown de Russell Wilson, il y en a un où j'oublie le nom de votre corner défenseur de l'année. C'est quand même incroyable.
Gilmore.
Gilmore, merci. J'allais dire Maurice Claiborne.
Non, respect un peu.
Stephen Gilmore. Y en a un où la défense est parfaite, c'est juste la balle qui est placée. Limite, ouais. Elle est trop parfaite, la défense, sur Metcalf. Il y en a un où c'est le poteau, c'est le petit pylône dans but qui remet le pied ouais. du receveur des Seahawks de Moore dans la end zone. Mais globalement, j'ai trouvé cette défense des Patriots pas inspirée. Laisser des runs, laisser des trous béants. Alors on pourra me dire que c'est les absences, mais je trouve que alors la défense l'année dernière était historique, ok, mais je l'ai pas trouvé inspirée cette défense des Patriots et ça fait deux semaines qu'elle est pas inspirée.
J'ai trouvé défensivement, parce qu'il faut être, on va commencer par le négatif. J'ai pas compris les choix de Belichick en première mi-temps. Il a fait de la zone. On fait jamais de zone. Il a voulu faire ce que fait Belichick des fois, prendre le contre-pied et tout ça, les premiers drives, bon, il y a le premier drive pick six de Russell Wilson, ça commençait bien, et puis ensuite Bill qui sort une espèce de zone, alors qu'on sait que voilà, enfin tout le monde sait que New England c'est une des équipes qui joue le plus de Mahomes. Belichick c'est historiquement un joueur qui, même si il s'adapte toujours à son adversaire, il fait quand même beaucoup d'hommes à hommes. Et en fait, la zone, ça marche si t'as un pass rush. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pass rush. Alors, on n'a jamais eu des pass rushers dominants, mais quand on arrivait à t'envoyer les Van Noy, Collins, Hightower, ces genres d'hybrides puissants et tout ça, et que derrière, on mettait 6-7 DB, ça pouvait marcher. Là, on n'a plus ces trois mecs-là. On n'a pas de pass rush. Donc, c'est compliqué. Franchement, à la place, t'as Chase Winovich, t'as d'autres joueurs.
Qui est solide, hein. Mais c'est pas, ouais. Tu peux pas baser ton pass rush sur lui.
Non, tu peux pas baser ton pass rush sur lui. C'est pour ça que, voilà, j'aurais beaucoup aimé qu'on mette le grappin sur Clowney, mais ça s'est pas fait. Et puis, voilà, donc pas de pass rush. On n'a pas vraiment de gros mecs pour stopper le jeu au sol. On en a, hein, on a Guy et Coward. Guy qui joue Ravens d'ailleurs, je crois, avant.
Ouais.
Qui a une vraie belle révélation depuis qu'il est aux Patriots. Mais, et puis après, voilà, trop petit, donc on en a pris cher à la course. On a fait des couvertures de zone bizarres. Wilson a pu éviter un peu le pass rush. Il avait le temps dans sa poche et puis après c'était fini. Après voilà, comme tu dis, il y a deux trois lancers où il les met, mais c'est parfait quoi. Gilmore peut pas mieux défendre, McCourty peut pas mieux défendre. Jesse Jackson aussi loupe la première mi-temps, ça j'ai pas compris. Alors que il est absent sur pas mal de snaps, alors que c'est un des meilleurs corners de la NFL pour moi, et que l'année prochaine ça va être très dur de le garder parce qu'il va se prendre une offre monumentale à la free agency. Mais assez déçu, surpris, c'est le début de saison après. Défensivement, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'il va toujours réussir Belichick à faire
ça. Ça t'inquiète pas parce que globalement, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'équipes qui étaient dans un secteur du jeu, on en reviendra peut-être après pour certaines questions, des équipes qui étaient très fortes dans un secteur de jeu, elles se sont pas arrêtées vraiment parce que, surtout quand il y a eu de la continuité, là tu me diras, ouais. À cause des forfaits, il y a des joueurs qui sont dans des rôles trop gros pour eux. On a vu que globalement les équipes se maintiennent, les escouades se maintiennent.
Ouais, on a perdu Van Noy, Collins, Hightower, Patrick Chung aussi, poste de safety. D'ailleurs, ça fait que le rookie Dugger a beaucoup joué et j'aimerais bien qu'il joue plus parce que franchement, je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas mal sur des situations, même sur du blitz ou des choses comme ça.
Mais le backfield défensif est. Moi, j'ai pas été choqué, en fait. C'est vraiment le front seven qui est à la rue,
pour être honnête. Ouais, exactement. Puis sur la fin de match, on fait des stops, hein. Quand on joue de l'homme à homme et tout ça, Wilson rate une ou deux passes à quelques centimètres près à chaque fois, mais c'est vraiment le manque de pression. Et on sait que, voilà, comme disent les Américains, Van Bettig arrive à schématiser la pression, à la créer, en fait. On n'a pas Chris Jones, on n'a pas Aaron Donald, on n'a pas ces gars-là, mais c'est peut-être en envoyant plusieurs gars, en faisant quelque chose comme ça, mais là, toujours est-il que ça n'a pas marché, que même si Kyle Van Noy, Jamie Collins, dont d'ailleurs peut-être d'autres gens pouvaient dire qu'ils étaient un petit peu surcotés, qu'ils ont été surpayés, c'est vrai, mais il nous manque quand même dans le pass rush quoi, de l'équipe. Et Jawoon Bentley, il faut que Bill arrête avec les linebackers, les linebackers intérieurs des années 70 qui ne peuvent pas courir parce que. Enfin, en NFL aujourd'hui, moi je veux du Deion Jones, je veux du Devin White, je veux pas du Jawan Bentley, quoi.
Justement, on reste sur ce côté-là du match, mais peut-être de l'autre côté des Seahawks. On va un peu articuler cette partie aussi autour de questions des auditeurs. L'attaque des Seahawks a-t-elle atteint son potentiel maximum? C'est une question de JM underscore S2 sur ce match-là. C'est vrai que l'attaque des Seahawks, on est obligé d'en parler, portée par Russell Wilson, divin.
Franchement, je te pose une question. Est-ce que Russell Wilson ne suit pas un peu la carrière de Tom Brady?
Ah, tu veux dire porté au début par la défense et puis après il se révèle
Ce genre de
lui-même et
schéma, quoi, ouais.
je comprends ce que tu veux dire. Après, la différence, c'est que lui, on a pris beaucoup plus de temps pour lui donner les rênes.
Oui, c'est vrai. Pourtant, il a
Parce que
les rênes
là,
depuis quoi, quand? 2 ans, quoi?
et encore, enfin, tu vois, c'est ce que Seahawks France nous avait demandé. Ça fait combien de temps qu'on let Russell cook? Ça fait combien de temps que Russell Wilson? C'est la première année où on lui donne vraiment, je trouve, la pleine plénitude de l'attaque. On lui donnait plus de jeux de plus en plus, mais là, c'est son attaque, en fait. On a abandonné, tu parlais des années 70, Pete Carroll. Il est, voilà, machine à remonter le temps. Il est, enfin, avancé dans le temps, en l'occurrence, là. Il est en 2020. Et ça donne, il s'éclate avec du DK Metcalf, etc. Enfin,
Franchement, me faire défoncer par mon man crush, c'était assez difficile. C'était assez compliqué. Mais ouais, franchement, bah ils ont deux. Peut-être c'est pas des noms que tout le monde met à ce poste-là, mais est-ce que Metcalf et Lockett sont pas des potentiels pro bowlers? Peut-être,
Si
hein.
si si
Tu
si
vois?
si totalement. Et là on est quand même devant. Le contraire total de ce qu'on a pu critiquer du côté des Eagles, c'est que les Seahawks, de 1, il y a des drafts. Alors bizarrement, eux, le premier tour les intéresse pas, mais
Non.
ensuite, ils ont toujours des petits trucs intéressants. Et puis aussi, on parlera de la défense aussi un peu des Seahawks après, peut-être un peu plus en difficulté. Mais tu regardes ces défenseurs, rien que les safeties, Quandre Diggs, c'est un trade. Jamal Adams, c'est un trade.
Dunbar, c'est un trade.
Hein, tu vois, il y a aussi cette capacité à se dire, on va chercher les bons coups. Bon, Quadri Diggs se fait sortir sur le match sur un attentat. Bon,
Ouais.
c'est une autre question. Mais il y a aussi cet aspect-là qui se retrouve bien sûr en attaque avec Wilson. On a un peu sorti du coup de la question par rapport au potentiel maximum. Globalement, j'ai envie de dire que oui, je pense que Brian Schottenheimer, ça fait des années qu'on lui tombe dessus, le coordinateur offensif. Là, il a donné les clés à Wilson. Oui, après, je vais te poser l'autre question, moi qui m'intéressait, je te l'avais dit en off. Est-ce que ça serait vraiment surprenant de voir Russell Wilson continuer sur ce rythme-là toute la saison? Ça m'étonnerait même pas.
Non, à rater 5 passes par match et lancer
Bon.
5 touchdowns, oui, ça, oui, tu vois, va y avoir des moments où non. Mais tu vois, franchement, il faisait déjà des énormes saisons avec Doug Baldwin, Golden Tate, Jermaine Curse, Luke Wilson et compagnie. Là, on lui a mis Metcalf, Lockett, Moore qui court super vite. Moi, je pense que oui, elle a. Alors, c'est pas si elle atteint son potentiel maximum, mais c'est la meilleure sur le papier des 2 premières semaines qu'on peut voir, parce que comme tu as dit.
Ah, pour toi, c'est la meilleure attaque.
Non, pas de la NFL, mais de ce qu'ils ont eu en fait
Ah, d'accord.
dernièrement, et que ça soit sur le plan du personnel, mais surtout des choix. Je me rappelle la première mi-temps l'an passé aux Packers, de Divisional Round, c'est une catastrophe, quoi. Ils font que courir, ils donnent pas la balle à Wilson, c'était terrible, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il le lance, il lui demande de lancer, donc ouais, je suis d'accord. Après, je pense que Wilson est tellement fort sur les deep balls, les lancers longs, qu'ils vont continuer à avoir beaucoup de gros jeux. Ils peuvent vivre là-dessus.
Et ce qui est intéressant, et ça rejoint une des questions de Régis San qui nous avait demandé, les Seahawks peuvent-ils tenir longtemps en comptant sur quelques big plays en défense pour contrebalancer leur big play en attaque, je pense, pour contrebalancer leur défense contre la passe limitée. En fait, je trouve que justement, ils sont extrêmement malins dans leur approche offensive, c'est qu'on voit que ils se gavent de check down, Russell Wilson. Parce qu'en fait, les défenses sont terrifiées par Lockett Metcalf. Ils se gavent de check down sur les 2 premiers matchs.
Ouais, c'est clair. Et puis après, voilà, un plaquage raté, et c'est direct un gros jeu, quoi.
C'est ça. Donc il y a cette triple menace de on a peur de se faire carboniser par Lockett et Wilson qui ont la meilleure connexion de la NFL. Il y a le danger Metcalf. Il y a aussi le danger de Russell Wilson peut aller courir. Il le fait de manière extrêmement juste. Et il y a aussi ces checkdowns, ce qui fait que pour une défense, une attaque, c'est insoluble. Donc oui, je pense que ces Seahawks sont séduisants en attaque. Et ouais, je trouve que les jeux sont ultra inspirés. C'est le touchdown de... Ah, je sais plus qui marche ce touchdown où c'est... il se retrouve totalement seul parce qu'en fait... Oui, merci. Parce que c'est deux shallow cross qui se croisent et en fait, et c'est la défense des Patriots. Hein. Oui. On l'a un peu critiqué, mais ça reste une défense extrêmement disciplinée. Mm. Ils tombent dans le panneau en fait. Donc ouais, même
Jackson,
les jeux sont plus inspirés.
Jackson à la rue complète, c'est le quatrième touchdown. Ouais. C'est vraiment, il est tout seul, ouais, bien designé, tout ça. Ouais. Franchement, je suis complètement d'accord. Et sur la défense des Pats, manque de pass rush qui fait que si tu veux jouer de la zone, c'est compliqué. À ce niveau-là.
Et du coup, pour continuer dans le prolongement de cette partie de cette question, pardon, de Régis Saint qui nous demandait sur la défense du coup des Seahawks, allons de l'autre côté un peu. Alors moi, je suis pas super inquiet par la défense des Seahawks sur ces deux premiers matchs parce que déjà, il leur manque du monde. Ensuite, sur ce match, je trouve qu'ils ont toujours du mal à intégrer Jamal Adams qui s'est fait carboniser quand même plus d'une fois sur le match. Quandre Diggs est pas là. Je suis
Bah, c'est normal. T'as vu ce qu'il a fait?
Oui, bon, oui. Il est plus là parce qu'il a assassiné quelqu'un. En fait, je suis pas trop. Ok, la défense se prend 900 sur deux matchs, c'est un problème. Mais de un, ils jouent pas non plus des attaques. Ils jouent pas des mauvaises équipes. Non. Ils jouent les Falcons qui sont bons à une seule chose, c'est enquiller les yards.
Surtout quand ils sont à -20 les Falcons.
Ouais. En plus, ouais, des spécialistes. On appelle ça une Black Bortles. Et les Patriots qui vont revenir faire un bon match offensif, donc non, je suis pas trop inquiet par rapport à cette défense.
Pareil, juste je suis inquiet sur le manque de pass rush. Enfin, les deux équipes, pour moi, c'est ce qui est ressorti de ce match, c'est les deux, elles ont pas pu aller sur les QB adverses, quoi. Ils ont perdu Clowney, ils ont perdu d'autres gars. Quinton Jefferson, c'est pas un gros nom, mais c'est un mec qui pouvait embêter à chaque fois. Ziggy Ansah est plus là, mais en même temps, il était pas extrêmement bon l'année passée du côté de Seattle. Leur meilleur pass rusher, c'est Jamal Adams, hein, sur les deux premiers matchs. Et c'est comme l'année dernière aux Jets. Dès qu'il arrive dans une équipe, c'est le meilleur pass rusher. Ça veut aussi dire que le pass rush est pas bon, mais. Donc, je pense que ça, c'est une défense hybride. Ils ont perdu des joueurs. En plus, ils ont deux blessés, hein, qui se blessent dans le match. Donc, le nickelback Marquis Blair, il se blesse, il se fracture le tibia. Donc, je pense qu'il sera plus là de l'année. Et puis Bruce Irvin, ils avaient ramené Bruce Irvin aussi pour un peu apporter de la pression. Il s'est blessé. Donc, il y a des blessés. Après, ils ont toujours beaucoup de ressources, hein. Ils ont beaucoup de joueurs, ils draftent beaucoup de joueurs, je pense que ça devrait aller. Quand t'as une attaque comme ça, t'as pas besoin d'une défense élite, tu vas souvent jouer avec l'avantage, donc ça peut être annihilé, mais je suis plus impressionné par le match offensif des Patriots, en fait, qui ont vraiment bien bougé la balle, j'ai trouvé.
Alors, parle-nous-en justement de ce match offensif des Patriots. Moi, j'ai dit, je trouve que déjà, ça fait longtemps que j'avais pas vu Cam Newton comme ça. On parle souvent de la ligne, oui, mais là où l'année où North Turner, oui, voilà, était coordinateur offensif, je trouve qu'on avait retrouvé un peu de Cam Newton, mais on lui faisait faire quoi ? Des lectures ultra faciles. Là, sur certains jeux, c'est le poste d'un vrai... Il était, entre guillemets, hein, vision totalement archaïque, d'un vrai QB. Il fait des vraies lectures, il anticipe, il balance deux de ses mines. Parfois, c'est... Ouais, ouais. Enfin, il a un bras, c'est toujours n'importe quoi. Enfin, séduit. Moi, j'ai vraiment été séduit.
Et moi, donc ? Franchement, franchement, je t'ai envoyé des messages, je disais franchement, ça fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai même envie, après la deuxième mi-temps que j'ai vu, d'encore plus débrider le jeu pour Cam, en fait. Parce que, bon, le premier match, on a roulé sur la défense au sol de Miami. La première mi-temps.
La quoi ? Parce que je ne l'ai pas vu contre les Jets.
La première mi-temps, on est là parce qu'on est moins bon et on fait du ball control et on est à égalité parce qu'il y a un pick six de Wilson intercepté par McCourty. La deuxième mi-temps, on est derrière et puis là, c'est vrai que commence à avoir beaucoup plus de jeux de passe. Des bons jeux d'écran aussi, j'ai trouvé, qui permettent vraiment de mettre en jambe toute l'attaque. Et puis, ouais, franchement, je trouve que les lancers avec anticipation, play action, gros bras, et puis voilà, il a réussi à trouver nos trois receveurs, quoi. Edelman, qui a atomiser Adams, franchement. Sur la couverture, Adams, c'est super fort contre le jeu au sol, blitz et tout, mais en couverture sur Edelman, faut. Quand... C'est pour ça que ça me fait peur quand il va jouer Cooper Cup ou des choses comme ça, quoi, parce que c'est assez compliqué. Même Hopkins. Hein,
mais ils font trop défendre. Pour l'instant, sur le début de l'expérience Seahawks Jamal Adams, ils le considèrent trop comme un corner sur certaines actions. Ouais, nickel, bon, après, ouais. Sur l'action où il se fait torché par Edelman, c'est qu'en fait c'est juste le safety deep et c'est lui qui prend le truc, mais ouais. Je trouve que il est trop amené à faire du 1 contre 1 contre un tight end. Oui, ok, c'est là où il est intéressant, mais c'est pas un corner.
Ouais. Cam regarde à droite et il lance au milieu, en fait, technique pour faire partir l'autre safety, et donc il a le safety tout, il est contre Edelman tout seul. Et même, tu vois, Nekhil Harry, franchement, Il a une bonne relation avec lui, c'est hyper important. Il y a un premier tour qui a été investi sur lui, donc c'est top. Et puis le petit Bird qui était avec lui du côté de Carolina, qui est en une cible profonde, là, il court vite. Et puis franchement, je suis assez content. Le jeu au sol peine encore à s'installer parce que Sonny Michel est pas bon, en fait, tout simplement.
Ah, le point Sonny Michel.
Sonny Michel est pas bon. Sonny Michel, en fait, te donne rien de plus que ce que la ligne va lui donner, en fait.
Donc quand il ne crée pas de yard.
Voilà, quand la ligne était élite durant les playoffs 2018, bah, il a fait son trou. L'année dernière et sur début de saison, c'est un petit peu plus compliqué. Toute la Pats Nation attend le retour de Damian Harris, running back qu'on avait drafté d'Alabama. Il va revenir dans 2 semaines, il est blessé. Il a fait une très grosse training camp et tout. C'est vrai que Sonny Michel, bon, il n'y aura pas de deuxième contrat pour lui du côté des Patriots. James White n'a pas joué aussi. Du coup, à cause d'une tragédie familiale, mais Burkhead, alias Voldemort, est un bon joueur sur passe, donc ça, franchement, moi, je suis sorti très, 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 très content. Et puis surtout, bon, même si à la dernière action, j'ai l'impression que Cam dans la red zone, ça va être instoppable.
Bah, ça a toujours été, et c'est vrai que moi, je t'avoue qu'on m'aurait demandé de parier, ce que je ne fais jamais, merci Luke Wilson. J'aurais donné la dernière action de ce match dont on a beaucoup parlé dans les médias après, j'aurais donné touchdown direct. Enfin, pour moi, c'était cadeau, et c'est gros jeu défensif des Seahawks.
Ouais, en l'occurrence. Il faut dire aussi, ils font un gros jeu défensif. Voilà,
le clin d'œil est marrant que ce soit eux qui arrêtent les Patriots sur un stop. Du coup, t'as dit, pour conclure un peu cette séquence, avant d'aller un peu plus loin, séduit, est-ce que t'es séduit au point de répondre positivement à la question de Ticro, on va dire Ticro, je suis désolé, Cam Newton peut-il apporter un Super Bowl aux Patriots ou au moins aller en finale?
Pour moi, s'il reste comme ça sur l'année, on est la troisième meilleure équipe AFC, je pense. Je pense, hein. Après, les Steelers peuvent être... Après, les Steelers, ils ont joué les Giants et les Broncos sans
Locke. Non, bref, on va croire que c'est de la rivalité de division. Je trouve pas les Steelers m'ont pas tellement impressionné, personnellement.
Voilà. Mais donc, non, je pense qu'on est derrière Kansas City et Baltimore. Mais franchement, sur un match de playoff, si on se ramène avec Cam Newton et qui contrôle bien l'attaque et que la défense est plus inspirée, je pense qu'on peut embêter ces deux équipes.
On remarquera que le nom d'une franchise, le B n'a pas été abordé. Hein, les Buffalo Bills, bizarrement, ont quitté la AFC. J'apprends ça en même temps que vous.
Hein, ils ont joué les Jets et Miami.
Après, ils ont été... On en reviendra, c'est la dernière question de l'émission. Ils ont été assez séduisants. Moi, j'ai écrit non parce qu'en fait, il y a les Ravens et les Chiefs. Il y aurait une équipe au-dessus, oui, il y en a deux. Ouais. Et on va y revenir après. C'est des rouleaux compresseurs, ces deux équipes, sur le début de saison. Donc, satisfait des Pats, il faudra compter sur eux en playoff. Je pense que là, on est rassuré, ils vont aller en playoff, surtout qu'il y a cette strapontin maintenant.
Calendrier n'est pas simple quand même. Tu vois, j'aurais bien aimé le prendre celui-là, parce que ça aurait fait. Il y a un calendrier pas simple, mais je suis quand même très rassuré sur ce que j'ai vu sur le terrain.
Après, t'as les Jets dans ta division.
Et Miami.
Et Miami qui est pas super. Enfin, on va revenir, qui a quand même battu les Jaguars, mais qui est pas super non plus. D'autres choses à ajouter, Alan, sur ce petit segment spécial New England Seattle? Et ben moi, j'ai envie de remercier les gens qui ont voté pour ce match, que c'était vraiment un match plaisant. La prochaine fois, si vous pouvez éviter de nous mettre un match de New England.
Je mettrai pas New England dans
la semaine. Même si moi, je suis impatient de voir leur match des Raiders, que les Raiders, c'est une des bonnes saisons. une des bonnes surprises de ce début de saison.
Mais c'est mieux dans le les Patriots temps. Vont jouer les Chiefs, vont jouer les Ravens, vont jouer les Texans, vont jouer les 49ers. Donc il y aura des matchs
assez intéressants. Ouais.
Les Cardinals.
Quel oh là là, ce Chiefs Ravens qui tombe une semaine, on va pas enregistrer, ça me tue, franchement.
Tu pourras pas trop stresser, tu pourras regarder le match sans prendre des notes et tout.
C'est ça, ouais. On va faire ça. Et ben du coup, on marque la deuxième et la dernière pause de cet épisode numéro 9 du Safety, puis on se retrouve pour répondre à vos questions juste après la petite pause. This is 3rd and 31. 3rd and 31. Just a give up toss play, run play for the Niners, and they get the first down. Oh, Jets over pursuit. Jerick McKinnon goes 55 yards on 3rd and 31. I've never seen that, but I've seen some... Dernière partie de cet épisode numéro 9 du Safety, on va répondre à vos questions, 10 questions. On en avait déjà, donc j'en ai incorporé, hein, comme je vous l'ai dit, 4 dans le sujet Eagles et une dans le sujet Eagles, 3 autres dans le New England Seattle. On démarre avec une autre question de Ticro. Donc si je malmène ce pseudo, je l'aurais fait deux fois en plus, ça me gêne énormément. Après deux matchs, mettez-vous à jour sur vos pronos. Qu'est-ce qu'on change, Alan, après deux matchs? Moi, j'ai un peu de mal à changer après deux matchs. Je te l'avoue.
Pareil.
C'est un peu tôt. À part peut-être des Saints un peu décevants, j'ai peu de choses à changer.
Donc, c'est, prono Super Bowl ou prono qui va en playoff, en gros. Moi, sur prono Super Bowl, je le change. Comme toi, je le change pas. Je le change pas. Après, voilà, les Texans, malheureusement, c'est une des équipes qui est pas très en forme, quoi,
Après,
le calendrier est pas simple, quoi.
Chiefs Ravens, on va en reparler. Chiefs Ravens, c'est compliqué.
C'est
hein.
Pas facile, quoi. Ouais. Donc non.
Ouais, on va peut-être aller. Attendre peut-être le prochain épisode. 4 matchs dans la muselle, ça.
Un quart
la
de la
musette.
Saison,
ouais, ça. Ouais, c'est ça qui est incroyable. 4 matchs, quart de la saison. Déjà, ça permettra d'avancer. Dernière question de Ticro. Quel sera le bust de l'année et quelle équipe sera la bonne surprise? On est mauvais, donc on démarre forcément par le bust. Moi, j'en ai marre de Détroit. Ça fait 15 fois que je le dis depuis qu'on a commencé ce podcast. Ceux qui nous écoutent chez Dunk Hebdo comprendront la référence. Pour moi, c'est le Orlando Magic de la NFL. Ça fait 5 ans qu'on me dit tous les ans qu'il y a une équipe. Ils sont mal coachés. Patricia, c'est pas possible. Ça fait, depuis la saison dernière, on a joué que 2 matchs cette année quand même. Hein, donc ça fait 18 matchs. Hein. Ils ont réussi à perdre 7 matchs dans lesquels il menait de plus de 10 points. C'est un scandale, cette équipe. J'en ai ras-le-bol, en fait. Je veux plus qu'on m'en parle des Lions. Je m'excuse pour leurs fans qui, entre parenthèses, ont vraiment du courage parce que ça doit être une des pires équipes à supporter. Non, les Lions, c'est pas possible. Enfin, l'espèce de pseudo-hype qui s'est mis en place, c'est pas possible. Et c'est trop facile de tomber sur un Jeff Okuda, par exemple, qui est un jeune corner, c'est difficile. C'est une équipe... Elle a des blessures, mais ils sont mal coachés et ils sont pas si bons qu'on a voulu nous faire croire. Donc non, les Lions, encore une fois, comme d'habitude.
Ouais, bah moi je dirais les Eagles peut-être. Et s'il y a des blessés, les 49ers. Mais ça serait pas vraiment un bust.
Ouais, est-ce que c'est vraiment un bust? Parce que eux, ils sont décimés.
Ouais, Garoppolo, là on a appris qu'il est pas titulaire le week-end prochain. Ils ont perdu Nick Bosa, Solomon Thomas, Raheem Mostert, Tevin Coleman, c'est
blessé. Kittle joue pas non plus.
Kittle jouera
pas. Le match qui arrive.
Mais bon, ils jouent les Giants, donc bon.
Il y a pas besoin de beaucoup d'armes. Et la bonne surprise pour toi, la bonne surprise.
Moi
j'ai envie de dire, on avait été peut-être un peu dur avec les Cardinals. Ils sont solides,
ouais.
Les Cardinals.
Ouais, Cardinals solides, ouais. Les Rams pour moi.
Tu continues sur ta...
Ouais. McVay est trop fort. Je trouve qu'il est...
Ça l'a su se réinventer, ouais. Il a su se réinventer.
Il est vraiment super, super fort.
J'allais dire dernière question de Ticro, mais non, il y en a une que j'ai malheureusement, je n'ai pas mis en caractère 12 comme je fais d'habitude, sur ma trame. Le match de Justin Herbert, un shot ou preuve d'un futur franchise quarterback de la trempe des Wilson, Rogers, Big Ben. Alors, on a été, et surtout toi, sans te mettre sous le bus, Alan, dur avec Herbert. C'est une première. Quand le mec, on l'a appris a posteriori qu'il l'a su quand même 14 secondes avant d'entrer sur le terrain, c'est une première convaincante. Après, on y reviendra, le fil du match, les Chiefs ont dormi pendant une bonne partie du match, mais il a été convaincant dans ce qu'on lui a demandé de faire.
Il a fait ce qu'il avait à faire. Rien de fou, il a complété 3-4 très belles passes, fait une erreur aussi, bon, c'est une erreur de jeunesse, c'est un rookie. Mais ouais, franchement, je suis bien assez surpris et très positif de sa sortie. La défense des Chiefs, c'est pas élite, ils ont deux très bons joueurs, que sont Chris Jones et Tyrann Mathieu. Mais non, franchement, quand on connaît les conditions, il n'y a pas eu de training camp, il n'y a pas eu de rookie minicamp et tout, il start pas de pré-saison, titulaire sur un match où il l'apprend 15 secondes avant qu'il va jouer les champions en titre. Franchement, solide, la défense des Chargers, on sait, pose problème à Mahomes. Ils ont essayé de les garder dans le match. Non, franchement, on va se calmer sur Wilson, Rodgers, Big Ben, mais franchement, très positivement surpris.
Donc du coup, on pourra le rejuger parce que après avoir dit un an, c'est du Tyrod Taylor, Anthony Lynn l'a du coup confirmé pour la semaine numéro 3. Donc on pourra voir ce qu'il va donner de face au. Je sais même pas qui joue les Chargers. Enfin, on surveillera. On surveillera du coup du côté de Justin Herbert. Question suivante. On va parler des Jaguars. C'est Pierre, notre présentateur pour les deux premiers épisodes, notre fan du Thunder, Pierre, qui nous demande, les Jaguars peuvent-ils être une équipe cette saison? Une équipe surprise cette saison après deux performances correctes. Alors, question écrite avant le match des Dolphins, on précise bien évidemment. Mitchu peut-il devenir un QB solide sur le long terme? On va peut-être commencer déjà par les Jaguars dans leur totalité. Ils ont perdu de façon assez brutale contre les Dolphins dans un match brutal aussi, le Thursday Night. Est-ce que ça peut être une surprise cette saison, ces Jaguars?
Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Ils ont battu les Colts, mais en fait, ils doivent pas battre les Colts. Enfin, quand tu vois le match, tu te dis c'est un miracle. Alors, ils le font, bravo. Ils sont pas loin d'accrocher Tennessee au match d'après. Franchement, ils sont pas loin. Mais leur défense est juste pas assez bonne. Et puis. Quand ils jouent des défenses un petit peu plus inspirées, je trouve la défense aérienne de Miami pas mal hier, même s'il n'y avait pas Byron Jones. Donc,
ils ont investi dedans.
Okay. Oui, ils ont les deux des cinq corners les mieux payés, je crois, de la ligue, avec Howard et un premier tour de draft avec le mec qui a un nom imprononçable, Noah Igbenegbene, voilà. Mais non, je pense que ça sera une des cinq pires équipes de la ligue, mais au moins ils sont dans les matchs, quoi.
C'est ça. Je vais reprendre ce que tu as dit. Je pense que ça sera une des cinq pires équipes de la ligue, mais ils seront peut-être plus proches de 5 que de 1. Alors qu'on les avait donné comme potentiellement le premier choix.
Exactement.
Mais c'est vrai que je pense que moi, ce match de Miami, il a été révélateur. Ils se font trouer au sol. Trouer au sol. Et puis même les bonnes surprises, le cornerback, le CJ Anderson, le rookie qui a fait deux bonnes, très solides prestations sur les deux premiers matchs, il s'est fait mais rincer sur ce match. Mais c'est rarement, c'est triste. Hein. C'est comme on pouvait lire sur Twitter, welcome to the NFL.
Ouais, là, il s'est fait. Rookie, quoi.
Ah, il s'est fait. Je crois que j'ai vu la stat passer un moment sur ses six premières places où il a été ciblé, 6 sur 6, un touchdown et une interférence. Je crois qu'il se fait mais rincer sur le match. Il y a un moment où ceux qui ont vu le match vont comprendre. Il y a une réception qui est validée. Il applaudit, mais il touche pas le joueur. Donc le joueur repart. Heureusement, il y avait un safety derrière pour le coup.
Différence des règles NCAA, NBA.
Ouais, enfin, compliqué, tu vois. Donc ça, ce petit brin d'espoir-là, il est plus trop là. Puis oui, après, Jay Gruden avait fait des bons appels de jeu. On va parler de Minshew. Mais Minshew aura une saison pour prouver. Mais je pense que, on voit que c'est, moi, je trouve qu'il y a quand même un parallèle avec Fitzpatrick qui est ultra intéressant.
Ok. Ouais.
Parce que c'est quand même deux QB en plus des folies capillaires et moustachières. Je trouve que il y a un côté capable de tout sur une action, mais
meilleur comme du pire.
Meilleur comme du pire, et puis surtout, c'est pas un meilleur comme du pire où tu vas te dire le niveau médian, c'est un QB titulaire. Je pense pas.
Non, moi comme je te l'ai dit. Avant qu'on enregistre, si jamais il se retrouve voilà, avec un top 3 de draft, qu'il y a un nouveau coach qui arrive, qui prenne un coach peut-être plus offensif que Doug Marrone, et que ce mec, comme Cliff Kingsbury dit, bah, moi je veux ce gars-là pour construire ma franchise, même si vous avez celui-là, et s'il le trouve meilleur que ce qu'il trouve meilleur Minshew, bah, j'applaudirais ce qu'ils ont fait comme Kingsbury a fait avec Kyler Murray alors qu'ils avaient drafté un QB un an avant. Alors Josh Rosen n'a pas du tout le même début de carrière que Garner Minshew, pas du tout. Juste je me dis, si tu peux avoir, voilà, la saison NCAA peine à commencer et les conférences c'est un peu bizarre, on sait pas encore qui, on sait qui sera à OLA, mais on n'a pas vraiment vu des joueurs qui ont des super bonnes équipes et tout ça. Donc moi je pense que Minshew peut devenir le QB sur long terme, mais ça sera pas le QB sur long terme d'une équipe qui peut gagner le Super Bowl. Donc
ouais, voilà. Ce sera un peu le QB d'une équipe quand elle a besoin d'une rustine en attendant quelqu'un d'autre, peut-être. Voilà. Je pense.
Ce qui est Fitzpatrick à Miami. Hein.
C'est ça, ouais. D'où le rapprochement des deux. Et je pense que après, on peut être surpris. Je pense que honnêtement, les jeux sont bien appelés. Il y a une bonne connexion qui se fait avec Laviska Shenault, le rookie, ouais. Mais il y a des fois, encore une fois, je parlais un peu de Wentz. Il y a un moment, il lance une passe à Laviska Shenault. Déjà, il a deux doigts de se faire décapiter. Et ensuite, protéger mal.
Oui, je vois très bien la passe, F.
Tu vois la passe?
Ouais. Tu décapité vois, par Van Noy et par.
oui, il doit pas lancer, il doit protéger. On y reviendra sur un QB dont on va parler dans deux, trois questions. Savoir protéger ses receveurs, c'est aussi important pour éviter de un, des décapitations, de deux, d'être détesté de ses coéquipiers. Donc, les Jags, top 5 de draft, visiblement, surtout que leur division va pas les aider. Et Minshew, à voir. On en parlera peut-être en fin de saison pour voir, mais mis à part surprise, je pense que ça sera pas le titulaire l'année prochaine.
Exactement.
Quoi d'autre? Alors, question de Tom ATW de l'ex French Knicks, du feu French Knicks podcast. Toujours, Tom, on te connaît toujours dans la mesure. quoi d'autre que la guillotine pour tous les fans, pour tous les Giants fans, après la news, Saquon out for the season ACL injury. Hein, Tom aussi, le bilingue, qui aime bien mêler l'anglais et le français.
Toujours le britannique.
Quoi d'autre que la guillotine après cette annonce d'un Saquon qui, du coup, va pas rejouer cette saison, le running back star des Giants. Alan, est-ce que ça change quelque chose vraiment au destin des Giants? C'est rien. Horrible de dire ça pour un joueur de ce talent, mais...
C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Mais ça change rien. Les stats montrent que même si ton running back, c'est un crack, franchement, ce qu'est Saquon, c'est un crack, ce gars. Mais vu que sa ligne, elle est pas bonne et que les défenses ont peur de aucun receveur des Giants, bah, il peut rien faire. Que ce soit Saquon, Dion Lewis, ils ont ramené Devonta Freeman, là, cette semaine, j'ai vu.
Ouais, là, on fouille vraiment les fonds de tiroir.
Oui, là, ça change rien. Saquon, il peut t'apporter 3-4 gros jeux par match, donc te faire kiffer, je pense, en tant que fan, mais tu gagneras pas des matchs. Hein. Enfin, c'est triste pour le joueur, mais pour le destin de la franchise, ça change pas. Et même les détracteurs de Saquon, que j'en ai vu sur Twitter, disent que c'est positif pour Jones parce que Saquon n'est pas bon en pass protection.
Non, ça c'est abusé. Vous respectez-vous, quoi. Ça c'est n'importe quoi. Mais oui, les Giants étaient déjà pas très bons sur cette saison. Il y a des problèmes au niveau de la défense. Tu m'avais dit aucun. J'allais faire un mot d'esprit qui allait casser deux fanbases, mais aucun receveur des Giants ne fait peur à une défense. Aucun receveur de New York, j'inclus les deux franchises, ne fait peur à personne. Il y a pas un bon receveur à New York en ce moment. C'est un gros problème quand même. Ces Giants là, ça va être une année. Ça va être un peu compliqué quand même, parce que Daniel Jones là, on est en année numéro 2 pour Daniel Jones. Ça va être une année 2 un peu compliquée, parce que clairement là aussi on se dirige vers un top 6, top 7 de draft, et on aura très peu de choses pour juger en fait, parce que aucun match important, parce que son équipe est pas là.
Donc, il n'y a pas de receveur, donc qu'est-ce
qu'il fait? Peut-être de facto la décision aussi, une des questions qu'on a plus tard, si on est très haut, si on a un Trevor Lawrence comme ça, si on a le premier choix, qu'est-ce qu'on fait?
Exactement.
Compliqué. Donc non, la guillotine, non, faut pas faire ça, mais compliqué pour les Giants fans. Deux questions qui se rapprochent un peu. Hein. Une question de Dr Biggie, une question de Zappa, et j'ai retenu la fois où j'avais posé la question, c'est un code postal.
Code postal.
On dit donc 13 009.
On est suivi chez le professeur Raoult.
C'est ça. C'est du côté de la Canebière et de Marseille. Vous voyez combien d'équipes de la NFC West en playoff et lesquelles? Et puis Dr Biggie qui nous demandait lui de son côté, est-ce que c'est la meilleure division de la ligue? Alors là, clairement, oui. Il n'y a pas besoin de disserter. Pas de oui, plus, largement.
Largement, complètement.
Et combien du coup d'équipes NFC West en playoff, Alan? Et lesquelles? On est d'accord, on a trop parlé en bien des Seahawks, on donne les Seahawks.
Ouais.
Tu donnes les Rams, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Avant de parler peut-être du cas épineux des 49ers, les Cardinals.
C'est un bon débat, je les avais pas. Je les avais pas, ils commencent à 2-0. Franchement, ils sont impressionnants. Je pensais que l'attaque allait bien marcher, je pensais que la défense allait se faire trouer. Bah, franchement, forcément, ils ont joué une attaque des 49ers pas hyper inspirée et Washington, donc c'était pas. Ils ont pas eu de. Si, franchement, les 49ers, c'est quand même un test. Faut pas. C'est une équipe qui était au Super Bowl, mais. Je pense que quand ils vont jouer. Là, ils jouent les Lions, tes potes, ce week-end, donc ils peuvent être à 3-0. Hein. Ils peuvent être à 3-0. Mmh. Donc, ouais.
Et après, ils jouent les Saints, je crois, en Monday Night. Donc à 3-0 avant Monday Night, face à des Saints qui sont pas les plus inspirés, c'est. Non. Ouais, et puis on l'a dit aussi quand on parlait des Eagles, ils croisent la NFC Est cette année.
Mmh, c'est clair.
Donc ils ont déjà joué les Redskins, c'est un match contre les Eagles et c'est un match contre les Giants. C'est une équipe qui peut être à 8-9 victoires, il y a 7 équipes en playoff. Ouais. Les 4, c'est pas impossible. Le problème de dire les 4, c'est que tu ne donnes aucune. Ouais, tu donnes aucune autre équipe.
Exactement, tu ne donnes aucune.
Ça voudrait dire, par exemple, typiquement. Il y a parmi Buccaneers Saints, il y en a une qui va pas en playoff.
Ouais.
C'est compliqué quand même.
Je suis d'accord.
Du coup, est-ce qu'on fait sauter les 49ers? 49ers, j'ai vu passer la stat. 11 des 46 joueurs qui ont joué un snap dans le match 1, première semaine, ne joueront pas la semaine 3. 11 sur 46. C'est incroyable comme ça. C'est 20% de l'effectif qui saute.
Et puis c'est pas n'importe qui. Hein.
On a du
meilleur joueur en défense, ton QB, 2-3 de tes running back qui sont explosifs et ton meilleur joueur offensif.
Ton meilleur corner.
Ouais. Ouais. Tellement que ça parle que Jason Verrett se réentraîne bien du côté des 49ers.
Ah, Jason Verrett, la star des camps d'entraînement. Jason Verrett, c'est le mec, il est toujours bon à l'entraînement, mais il se blesse.
Il se blesse tout le temps. Il a fait des énormes saisons avec les Chargers, mais depuis, il se blesse tout le temps et tout. Et chaque été, il y a de l'espoir sur lui. Donc, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Hein. Ça va falloir prendre en compte le facteur blessure. Tu perds Nick Bosa, George Kittle. T'as Garoppolo qui est un peu blessé, Mostert, Tevin Coleman. On sait que Shanahan te prend n'importe quel running back et il te le fait être bon, mais quand même, il y a des limites. C'est vraiment compliqué, c'est compliqué.
En gros, faut pas qu'ils prennent de retard.
Et ils ont pas le même calendrier que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient le calendrier d'une équipe qui avait gagné 4 matchs. Cette année, ils ont suivi une équipe qui a gagné 12 matchs. Donc, pas simple.
Donc là, j'ai l'impression que t'oses pas me dire qu'ils vont pas aller en playoff, mais tu veux me le faire comprendre.
Pour le respect sur Shanahan et c'est Jimmy Garoppolo est le titulaire, mais. Faudrait pas que tout ce monde soit absent longtemps. Bon, on sait que Bosa et Thomas, c'est saison finie, mais j'attends de voir.
Je suis assez d'accord. Faudra voir et compliqué. Oui, je donne les Rams, je donne les Seahawks, je donne les 49ers sur un doute, mais en gros, je pense qu'on peut dire qu'il y en aura trois. C'est-à-dire, si les 49ers n'y vont pas, les Cardinals vont y aller.
Ouais. Moi, j'en avais trois. J'en avais trois sur dans mes pronostics. J'avais Seahawks, Rams, et puis 49ers, et puis Rams. Donc,
Et du coup, elle est pas dans la trame, cette question-là, mais elle m'intéresse. On est d'accord, c'est largement la NFC West, la meilleure division. Il y a même pas de débat, 4 équipes potentiellement en playoff. Elle se trouve où, la deuxième meilleure division de la NFL? Pour moi, c'est l'AFC Nord, je pense. Je prêche ma paroisse, mais je pense que c'est l'AFC Nord. Ça se joue entre l'AFC Nord et l'AFC Est. Le problème de l'AFC Est, c'est que les deux équipes du bas sont pas assez fortes.
L'AFC West aurait pu, mais en fait, ça voudrait dire croire aux Raiders sur une saison et que les Chargers auraient fait un peu de mieux. Non, je suis d'accord. Ravens Steelers sont deux des cinq meilleures équipes de la division de la conférence, donc voire des quatre. Donc, je suis d'accord.
Ok.
Il y a du talent à Cleveland.
C'est ça, Cleveland à voir. On va parler de Cleveland, une des deux victimes des Ravens, les leaders en AFC, enfin leaders de facto en AFC, les favoris avec les Chiefs. C'est la question de ALC2ED. Qui peut empêcher la finale Ravens Chiefs en AFC? Alors Alan, je t'avoue, j'ai répondu à cette question par un mot sur mes fiches, personne.
On est deux.
À l'heure actuelle, s'il n'y a pas de blessure, personne peut empêcher ce match-là. J'ai vu les deux matchs des deux équipes. Les Chiefs gagnent un match contre les Chargers, qui est sur le papier la pire défense pour eux à jouer. Ils jouent 5 minutes dans le match. Les Ravens roulent sur les deux équipes qu'ils ont jouées. Ils jouent en tong. Donc, il n'y a personne. Personne ne peut. À l'heure actuelle, c'est les deux meilleures équipes de la NFL et en AFC aussi.
Je suis d'accord. J'ai rien à rajouter. Le plus flippant avec Kansas City, c'est Creed, il en a même rien à faire de la défense des Chargers. C'est d'habitude, on se dit, ah, il joue cette défense, je vais m'adapter. Non, lui, il arrive, il a dit, je joue mes jeux préférés, ça marche pas au début, mais de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a Patrick qui va faire le coup d'éclat, quoi. Non, je vois cette finale AFC. Après, l'avantage du terrain, on verra, tout ça, ce sera important, et encore, mais non, je suis d'accord.
Le seul moyen qu'on y échappe, c'est tout simplement qu'ils se rencontrent avant. C'est qu'une équipe type Bills ou Patriots fasse une grosse saison régulière, et qu'ils soient pas 1-2, mais je vois pas. Honnêtement, en l'état, je vois absolument pas ce qui peut se passer.
Bah, blessure, mais on met ça.
Blessure d'un des deux QB, parce que je vois même pas dans les deux équipes un joueur qui change tout.
Oui. Pareil.
Enfin, ouais. Après, c'est pas des équipes parfaites, la ligne des Ravens s'inquiète et tout, mais c'est de loin, c'est les meilleures impressions.
T'inquiète pas parce que t'es un fan de psychorigide, mais
non, elle est bon. Après, ils ont joué deux bonnes lignes défensives, donc c'est à voir. Mais non, en AFC, c'est
attends de jouer les Bengals.
C'est compliqué. Ouais. Et deuxième question. Quel QB perdra sa place en premier, Breeze, Wentz? Je pense qu'aucun des deux cités va la perdre parce que Breeze, pour moi, c'est un blasphème de lui faire perdre sa place. Wentz, t'as de l'argent investi sur lui, le backup est pas incroyable. C'est assez compliqué, moi. J'ai eu du mal à répondre à cette question. J'ai vraiment dû me creuser la tête. Je te propose deux noms, Alan.
Vas-y.
Fitzpatrick, parce qu'il y a Tua qui toque à la porte et il avait fait un premier match. C'est ça. Le swag. Qui va devoir attendre un peu, je pense, sur la touche, parce que Fitzpatrick avait fait un premier match lamentable, mais là, ça fait deux fois qu'il est très fort, 12 passes de suite réussies contre les Jaguars. Et Haskins, parce que je pense que c'est peut-être le QB titulaire le moins bon, et qu'il y a peut-être Kyle Allen derrière, qu'apprécie Ron Rivera, mais ouais. Je serais, honnêtement, est-ce que tu serais surpris s'il n'y a aucun changement avant la semaine 10?
Non, parce que je t'aurais dit Minnesota a un bon backup peut-être.
Il y a personne.
Mais non, il y a personne. Donc
tu bêches vraiment le mec que t'as signé à ce contrat d'or, le Kirk Cousins.
Bah, il a un moment dans le match contre les Colts, il est à 7 sur 22.
Hein. Pour
80 yards.
De toute façon, il y a le triptyque d'équipes NFC qu'on aurait pu allumer, Falcons, Vikings. Ouais. Eagles. On a choisi les Eagles, on s'excuse pour leurs fans. Mais...
ça, c'est un des bonnes notes. On n'était pas dans le train où les Vikings peuvent faire un truc dans l'AFC Nord, NFC Nord et tout, quoi. Parce que leur défense est une catastrophe.
Tu starts des corners rookies, forcément.
Trois corners rookies. En plus, ta défense, ils ont joué 40 minutes en moyenne en défense sur les deux premiers matchs. Genre, c'est horrible.
Et là, je pense que tu sais qui sort victorieux de tout ça? Stéphane Diggs.
Stéphane Diggs. J'allais dire Stefanski peut-être, mais aussi Stéphane Diggs, oui, c'est clair.
Ouais. Parce que là, on se rend compte, oui, le fameux duo Diggs-Thielen, quand il n'y a plus Diggs, ah, c'est plus le même Adam Thielen.
Ouais. Et puis Kubiak, je disais ça sur un très bon article d'NBC Sport, mais ses jeux offensifs de course, il en a deux, et c'est toujours les mêmes depuis 20 ans, quoi.
Il marchait jusqu'à récemment, il marchait encore.
Oui, ça marchait au Ravens avec Justin Forsett, incroyable. Mais il y a de l'adaptation qui se fait, la ligne n'est pas exceptionnelle. Il y a Adam Thielen, le rookie Justin Jefferson sur les extérieurs. Et sinon, il n'y a pas grand monde. Et la défense, c'est vraiment compliqué. Après, ils ont joué deux bonnes attaques, hein, mais quand même.
Et du coup, perdre sa place, t'es d'accord?
Ouais.
Tua et peut-être Haskins.
Ouais, parce que bon, peut-être que Flores à la fin. Bah après, Flores, c'est quand même un gamer. Il veut quand même gagner. Il veut gagner. Et je pense que si Fitzpatrick lui donne plus de chances de gagner, il le fera. Mais ouais, je pense que on aura peut-être Tua qui va prendre les rênes. Moi, mes pics de début de saison, c'était Trubisky. Mais bon,
il gagne.
Il gagne. Il gagne en n'étant pas bon, mais il gagne. Donc non. Non. Tu peux dire.
Qu'il est... ouais. Juste, Foles a pas pris la place de ce mec-là. Alors, je veux bien qu'on me sorte l'argument de l'amour du GM par rapport à son choix de draft, c'est tellement critiqué par rapport à Mahomes, par rapport à Watson. Foles a pas pris la place de Trubisky dans les training camps.
Ouais.
C'est pas. Est-ce que ça ne dit pas plus sur Foles que Trubisky?
Ça me dit sur le niveau de Foles et sur la gestion du front office sur Trubisky. Trubisky qui, je rappelle, refusait qu'on mette des images d'ESPN ou de talk show qui parlaient en bien de Mahomes et Watson dans le centre d'entraînement. Exceptionnel.
On reste sur les QB du coup. Question de Playoff P. Visiblement, c'est pas Paul George parce qu'il est porté disparu. Trevor Lawrence ou Sam Darnold?
Incroyable cette question.
Incroyable cette question. C'est un peu. J'ai vu pas mal d'articles du New York Daily News. Bon, hein, on peut pas lire le New York Times tout le temps. Le Daily News qui commençait à se demander s'il y avait cette possibilité, qu'est-ce qu'on fait? Clairement, moi je trouve que je range un peu. Ah, je découpe du QB. Je suis Aaron Donald cette semaine. Darnold est pas. Et franchement, il est pas aidé. Il a son premier bon lineman, je pense, depuis qu'il est en NFL avec Mekhi Becton, qui est un des meilleurs, je pense, rookies sur ses deux premières semaines. Il a personne en attaque. Hein. La fraude Breshad Perryman a été dévoilée. Bon, mais Sam Darnold ne progresse pas. Sam Darnold continue à avoir des mécaniques chancelantes. Sam Darnold continue à. Je te laisse. Ouais, vas-y.
Ah, les pieds.
Les pieds, oui. Voilà, les pieds qui bougent de partout. Sam Darnold continue à rater des receveurs à 3 mètres. Sam Darnold continue à ne pas savoir lire certaines défenses. Donc, peut-être que c'est à mettre au crédit du coaching staff et d'Adam Gase, qui, lui, est le roi de la fraude, peut-être. Mais le Patrick Balkany de la NFL, mais franchement, il y a un moment, c'est pas possible. Il y a un moment, franchement, est-ce que Sam Darnold est fondamentalement un meilleur QB qu'à sa draft talent?
Patrick Balkany de la NFL, je m'en remets pas. Les heures sombres du RPR sont dévoilées. En fait, tu vois, je vais te dire un truc, c'est que si, pour répondre à la question Lawrence Darnold, cette question, est-ce qu'il est meilleur qu'à ça, en fait, elle est même pas à prendre en compte, parce que même si Darnold, il a pas progressé, et même si c'est parce qu'il a une situation désastreuse, ça changera rien dans l'idée que s'ils ont la possibilité de faire Lawrence, ils le feront, je pense. Parce qu'en fait, tout va trop vite maintenant en NFL. Et donc, en vrai, il a une situation horrible. C'est vrai qu'il a jamais été vraiment aidé. Le play calling est pas ouf. Il a jamais eu vraiment d'armes. La ligne, voilà, pas trop de jeu au sol. Voilà, oui. Mais c'est terrible. Mais regarde, Josh Rosen, c'est la même chose. Et c'est déjà fini pour lui. Genre, il est déjà sur le practice squad des Buccaneers. Donc, Sam Darnold,
il n'y a pas un moment. Parce que Sam Darnold, faut pas oublier que quand Mayfield, on s'en rappelle, quand Mayfield est pris, on se dit non mais les Jets, ils tombent en 3 avec le meilleur des QB de la draft, etc. Ouais. Sam Darnold, alors c'est un joueur qui, même depuis son temps à USC, il enchaîne les coordinateurs, c'est compliqué, mais il y a pas de progression en fait vraiment, donc c'est assez compliqué à se poser la question. Et oui, s'ils peuvent faire Lawrence, ils font Lawrence. D'ailleurs, moi je me demande si c'est pas plus intelligent de faire ça, et ça renvoie un peu à ce qu'on a dit sur Minshew. Je pense que on aurait une saison NCAA tellement spéciale avec des joueurs qui n'ont pas joué que peut-être certaines équipes en RAN niveau QB vont se réfugier vers des valeurs refuges et se dire bon bah autant prendre un mec qui, même s'il a pas été bon dans ses jeunes années, connaît déjà la NFL.
Ouais peut-être oui parce que si Lawrence est drafté, Darnold est tradé, hein. Donc je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
À voir ce que tu peux en tirer, parce que je sais même pas ce que tu peux.
Bah, Rosen, ils en ont tiré un second tour de draft, les Cardinals. Incroyable. Donc,
quoi Peut-être d'Arnold un peu plus, mais décidément, cette. On va finir d'ailleurs en parlant d'un des autres membres de cette classe de draft, Josh Allen, mais cette classe de draft, qui aurait parié que quoi, 3 ans après, on a un Lamar Jackson MVP, on a un Josh Allen en progression, on a un Baker Mayfield en doute, un Sam Darnold dans le sac et Josh Rosen perdu sur le radar.
Sur un practice squad à Tampa Bay.
C'est vraiment, c'est incroyable comme carrière. Enfin, ce qui s'est passé, c'est vraiment, c'était inattendu.
Rosen qui était mon préféré des 5, je le dis aux gens quand même, parce que c'est voilà.
Rosen qui était le préféré de beaucoup de monde.
Hein. Faut avouer ses torts au bout d'un moment. C'était mon préféré devant Lamar. Donc,
Ah, Lamar, incroyable, meilleur choix de l'histoire.
Oui, on a pris Sonny Michel plutôt que Lamar. À un pic frais.
Josh Allen, justement, on finit par lui. Dernière question. De Ticro qui revient. Je me suis trompé, il revient une dernière fois. Josh Allen et les Bills ont-ils montré les signes d'une équipe qui va dominer l'AFC Est? Peut-être pas dominer, mais pour moi, c'est pour ça que j'ai pas réagi tout à l'heure, c'est la troisième équipe en AFC. C'est la troisième équipe. Alors Josh Allen, mon problème avec la team PFF et certains analystes de draft, c'est que cette frange de Twitter et des analystes, quand ils ont un mec, ils n'aiment pas un joueur, ils sont en incapacité de reconnaître quand ce joueur se progresse.
Il y a toujours un truc, oui, je vois ce que tu veux dire.
Il y a toujours un truc, c'est incroyable. Enfin, là où, à l'inverse, PFF, par exemple, Pro Football Focus ou d'autres experts draft adoraient Baker, donc Baker Mayfield a un passe droit pas possible, Josh Allen rate une passe, c'est le pire QB en NFL. Ouais. Ça fait 2 semaines qu'il joue bien. Josh Allen, ça fait 2 semaines qu'il est précis, que Brian Daboll lui design des bons jeux, ça fait 2 semaines que le mec continue à montrer que son bras, c'est un canon laser, c'est n'importe quoi. Enfin, je suis assez séduit par ces bises. On attend un vrai test, mais je suis séduit.
Ouais, non, je suis d'accord. Franchement, il y a toujours un truc, c'est vrai. Ah, et en plus, ces gens-là restent vraiment bien. Ils disent, bah oui, mais ils ont joué les Jets et Miami. C'est un argument, oui, qui peut se recevoir, mais toujours est-il que sur les 2 premières semaines, il est vraiment bon, la connexion avec Diggs est bonne, et même, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, maintenant, ils ont 3 receveurs dangereux, en fait. Et donc, il faut 3 corners pour bien les défendre. Bon tight end, Dawson Knox, Brian Daboll, c'est un bon designer de jeu, il vient de l'école New England, donc, je me fais pas de soucis, je pense qu'il sera candidat peut-être à un poste de head coach, hein, l'année prochaine.
Ouais.
Je pense, hein. Oui, bien sûr, ils peuvent. C'est une des 2 meilleures équipes de la division. C'est une des 6 meilleures équipes de la conférence. Donc, ils sont là. La défense, je la trouve un petit peu plus bizarre, tu vois, sur les 2 premiers matchs, bizarrement. Mais c'est que McDermott, il a réussi, voilà, à faire ce que n'a pas fait Gase, à créer une culture, tu vois. Il gagne des matchs qu'ils doivent des fois pas gagner. Ils sont sérieux, ils se tirent pas dans le pied. Et puis, ils ont investi sur Josh Allen. Ils se donnent les moyens de réussir. Ils lui donnent les moyens de réussir. Tu échanges un premier tour pour Diggs. Tu payes de l'argent à Brown, Beasley. Tu draftes Dawson Knox. Tu draftes des running backs. Tu t'investis sur la ligne. Bah voilà. Moi, comme j'avais dit cette année, j'attendais à ce qu'il soit solide parce qu'on avait vraiment bien entouré. Bah, pour l'instant, il l'est. Donc. Chapeau. Genre, c'est pas mon joueur préféré, mais chapeau sur les 2 premières semaines.
Puis, enfin, ouais, on a investi sur lui. Tu vois, on donne souvent, encore une fois, beaucoup de jeunes QB ont cet argument de « il est pas bien entouré ». Avant cette saison, c'était qui le meilleur receveur qu'il avait eu, Josh Allen?
Ouais, c'était Brown,
l'année dernière. Et c'est pas, c'était un mec qui était dans certaines équipes pour Evans, au Cardinals, jamais numéro 1, toujours 2-3. Enfin là, ça peut changer sa vie, Diggs. Meilleur sous pression, non, vraie, très bonne performance de Josh Allen. On va conclure là-dessus avant de passer la barre fatidique des 1h30 qu'on aura peut-être passé, mais non, moi, séduit. Franchement, Josh Allen à voir, mais.
J'attends le match contre les Rams de ce week-end, moi, personnellement. Ça va être un vrai bon match, je pense.
Après, attention, c'est ça aussi le truc que je vois, c'est que quand on lui donne un peu de crédit, on est très vite prompt à lui reprendre, en fait, à Josh Allen, alors que c'est, il fait, puis sur les longs jeux, honnêtement, il est extrêmement dangereux.
Alors que l'année d'avant, il avait du mal. Il était trop loin à chaque fois. Diggs, franchement, Diggs est, Je crois que j'ai sous-coté Diggs assez longtemps. Perso.
Mais Diggs est incroyable. Et c'est là où on dit, tu vois, c'est une équipe sérieuse et tout, mais c'est pas une sérieuse chiante. Tu vois. C'est pas une équipe juste sérieuse. Ils vont... Là, eux, ils ont cette capacité de réaliser des gros jeux. Dangereux. Ouais. Extrêmement dangereux. Et on va finir comme ça ce podcast, donc découpage des Eagles, les Bills, le monde à l'envers, les Bills qu'on applaudit, bravo, hein, qui vont encore une fois aller du côté des playoffs. Je me faisais cette réflexion, mais c'est assez sclérosé les playoffs en AFC quand même. J'ai l'impression cette année on va retrouver en gros les mêmes équipes à une ou deux exceptions près. Et ben, on vous remercie de nous avoir écoutés si vous l'avez fait jusque là. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier uniquement Twitter, sur nos Twitter perso aussi, si vous voulez voir Alan commenter sur les lancers de Cam Newton chaque dimanche, c'est l'endroit où aller. Et puis aussi à nous suivre sur les plateformes de podcast où vous écoutez notre émission, que ça soit Podcast Addict, Spotify ou bien sûr Apple Podcast. Un dernier mot à dire, Alan, pour conclure cet épisode.
Franchement, bon match ce week-end parce qu'il y a des gros gros matchs. Packers, Saints, le Ravens, Chiefs, Seahawks, Cowboys, il y a du lourd.
Il y a du très lourd. Alors, si vous êtes en train d'écouter ça en dimanche après-midi, préparez-vous pour ce beau dimanche de NFL. Et puis nous, on se retrouve pour disséquer. On ne sait pas quelle équipe. On va essayer d'être peut-être positif la prochaine fois, parler un peu plus de NFL. On vous souhaite un très bon week-end et à plus. Ciao.
Salut à tous.